Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour, bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous du Café des Sports de Radio Foot International sur RFI avec nos invités qui sont déjà là, un habitué, Rémi Ngono. Bonjour Rémi.
Bonjour Annie et bonjour à tout le Mali.
Ah, il y aura une explication j'espère. Xavier Barré est revenu et c'est fini la récré, il paraît, Rémi, pour vous.
Oui, oui, il a trop profité en mon absence, donc je reviens avec la ferme intention de ne pas le laisser s'exprimer comme auparavant.
Surtout que celui-là, il est revenu justement parce qu'il a suivi que j'annonçais que j'étais enrhumé. Il était convaincu que, étant malade, il va s'unir au refé pour me plonger dans l'agonie et dans le coma et me tuer. Malheureusement, je suis en super forme.
David Finzel va déjà appeler l'infirmerie au cas où, Rémi. En tout cas, notre confrère donc de l'équipe MAG, bienvenue, bon retour. Et puis Gilles Verdez qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Alejandro Valente est là, le réfé lui aussi est rentré de vacances. Bonjour Alejandro.
Et oui, tout arrive.
Tout arrive. Vous étiez au Camp Nou pour jouer au Chat Noir.
Pas au Chat Noir, mais...
Bah, ils n'ont pas gagné ce soir-là, en tout cas. Ils ont gagné, mais ils n'ont pas remporté le trophée, voilà. On va dire. Hein,
enfin.
Alors, dans les débats du jour, quel avenir pour nos six clubs français sur la scène européenne? Une forte présence, de beaux matchs aussi en perspective, mais hormis le Paris Saint-Germain, eh bien, une équipe hexagonale peut-elle espérer remporter l'une des coupes européennes? C'est la question que l'on se posera. On se demandera aussi quel avenir pour le prix UEFA du meilleur joueur européen. Lionel Messi, vainqueur hier, devrait aussi rafler le ballon d'or au nez et à la barbe, sans doute encore, de Cristiano Ronaldo. S'il venait à présider la FIFA, Michel Platini songera-t-il à unir ces deux trophées sous peine d'affaiblir leur prestige? Et puis deux rendez-vous intéressants sur les pelouses européennes en championnat. Le duel AS Roma et Juventus de Turin, l'éternel second, reçoit le quadruple champion d'Italie. Alors qu'en France, le triple champion, le PSG, jouera au pied du Rocher contre l'équipe de la Principauté. Que faut-il attendre de ces rencontres au sommet? Les débats sont ouverts. Une musique moins connue que celle de la Ligue des Champions. Pourtant, c'est un hymne aussi et c'est l'hymne de la Ligue Europa. Et la Ligue Europa, eh bien, cette année, on pense ici à Radio Foot qu'elle a un peu des airs de Ligue des Champions avec Liverpool, la Lazio, l'Ajax Amsterdam, Tottenham, le Borussia Dortmund. La compétition affiche a priori un niveau élevé alors que la Ligue des Champions, eh bien, quand on arrive aux demi-finales, en général, il y a de rares surprises. C'est différent. L'an dernier, on avait ce finaliste ukrainien inattendu face à Séville qui était Dniepropetrovsk. Alors honneur à la Ligue Europa aujourd'hui pour commencer, parce que le tirage au sort en plus a eu lieu il y a quelques heures à peine. 48 équipes, 12 groupes, 4 clubs français. Pas trop difficile pour l'OM, a priori, plus dur pour Bordeaux, Monaco et Saint-Etienne. Les Verts dans le groupe G, avec justement Dniepropetrovsk, avec aussi la Lazio de Rome et Rosenborg, un club de Norvège. L'un des deux présidents des Verts et vice-président de la LFP, Bernard Caillasso, reste pourtant philosophe face à ce tirage au sort, assez mauvais sort.
On va dire que c'est un tirage très difficile, c'est un exploit de sortir. À partir de là, bon, on n'a rien à perdre, et on va continuer à apprendre et puis on jouera notre jeu. Et puis football, il y a beaucoup d'incertitudes, donc faut y croire. Aujourd'hui, il faut être fier d'avoir 4 clubs et pas des petits clubs. En plus des 2 clubs de Champions League, on peut être que très heureux. C'est très rare d'avoir 4 clubs en même temps en Europa. Et d'ailleurs, je vais même vous dire une chose, c'est très rare d'avoir un club qui se qualifie 2 fois de suite pour les poules. C'est le cas de Saint-Etienne. C'est arrivé une fois en 5 ans. Maintenant, continuera notre apprentissage, notre expérience. Et puis, on est très heureux de donner à nos joueurs la possibilité de rencontrer de bonnes équipes. Voilà.
Xavier Barré, est-ce qu'il faut être fier de cette présence massive? 4 clubs français en Ligue Europa, c'était pas arrivé depuis la saison 2006-2007.
Oui, mais enfin, il y en a quand même un qui est parce qu'il a raté la Ligue des Champions. C'est déjà, donc c'est pas vraiment une fierté, c'est une consolation.
Et puis si on dit
4
clubs français, seulement, par exemple, 2 clubs espagnols, mais il y en a 5 en Ligue Europa, Ligue des Champions.
Ligue des Champions, absolument. Je crois que la saison dernière, il y avait 5 clubs italiens en 8e de finale de cette Europa League. Et à l'arrivée, il y en a eu aucun. Puisque même en finale, il y en avait pas. Donc, non, la satisfaction satisfaction, ça aurait été d'avoir trois clubs français en Ligue des Champions. Bon, Monaco a raté le coche. Là, ils sont quatre en poule de la Ligue de l'Europa League. C'est le moins qu'on puisse espérer. Ils sont passés tous les deux difficilement en barrage, Saint-Etienne comme Bordeaux. Maintenant, ce qu'on attend, c'est de les voir en huitième de finale de cette, enfin, en 16e de finale, puisqu'il y a un tour de plus en Europa League, et voir en huitième de finale. Et qui sait, effectivement, une équipe comme Monaco, qui était quart de finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière, peut-être aller plus loin dans la compétition. C'est ce qu'on attend.
Mais est-ce qu'il y a peut-être une valorisation de cette compétition, Gilles?
Bah, j'espère aux yeux des décideurs des clubs français. Parce qu'il faudrait quand même qu'un jour, une équipe française la dispute à fond, cette Ligue Europa. Sinon, c'est pas la peine de s'inscrire pour voir le parcours de nos
Ils disent tous les ans qu'ils le jouent à fond.
Ils le disent et ils mentent. Donc j'aimerais qu'une fois, ils le disent et ils ne mentent pas. Je ne sais pas si c'est pour cette saison. Monaco a dit nous la jouerons à fond. Mais comme Monaco ment toujours, je n'y crois pas une seconde.
Rémi.
Ce n'est pas qu'ils mentent. C'est qu'ils ne sont pas capables de le faire. Parce que lorsqu'on essaie de regarder, par exemple, Saint-Etienne aujourd'hui, on me dit que voilà, Saint-Etienne, peut-être ils ne veulent pas jouer ça, mais ils veulent jouer quoi? Lorsque je vois, par exemple, Saint-Etienne jouer, par exemple, l'Europa League et se faire, par exemple, battre à domicile par une équipe danoise, Esbjerg, un nom très difficile à prononcer, alors là, ça devient un peu compliqué. Et lorsque j'essaie, par
ils
exemple,
ont eu du mal
de regarder,
à passer,
oui, lorsque je me rends compte que par exemple, même Lyon se fait, par exemple, tabasser par une équipe qu'on appelle quand même Georgia de Roumanie, quelque chose comme ça, mais c'est terrible. Donc, à une certaine période, j'ai dit, quel est le niveau actuellement des clubs français? La vérité est là, les bilans sont là. Depuis 2003-2004, les clubs français, quelles que soient les compétitions européennes, n'ont plus jamais atteint la finale. Leur niveau, le maximum, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League, ce sont les quarts de finale.
Alejandro, une chose quand même, il y avait eu une demi-finale de Lyon il y a quelques années, Rémi, et c'était pas il y a si longtemps. Alejandro, quand même, ces clubs, notamment en Ligue Europa, c'est quand même entre guillemets des grands clubs français qui ont une tradition, parce que on se souvient que les années précédentes, il y a eu aussi Guingamp, il y a eu aussi Rennes. Là, on se retrouve quand même avec Bordeaux, avec Marseille, Monaco et Saint-Etienne. C'est pas mal.
Oui, il y a quand même annonce, et c'est que aujourd'hui, les clubs qui remportent cette Ligue Europa peuvent assurer sa présence en Ligue des Champions, et sont des clubs qui sont prestigieux mais qui n'ont aucune garantie d'accéder à la Ligue des Champions en occupant les deux premières places de la Ligue 1. On sait déjà que le PSG sera difficilement écarté de la première place et que les autres places, et notamment la deuxième, sera très chère à prendre. Donc il y a un vrai intérêt à disputer à fond cette Ligue Europa.
Ouais, mais je pense que justement le fait que Séville ait atteint la Ligue des Champions, les poules de la Ligue des Champions, grâce à son succès, son quatrième en 10 ans quand même dans cette Europa League ou ancienne Coupe de l'UEFA, cette saison va probablement renforcer la compétitivité des adversaires. Un club comme Tottenham par exemple, qui n'arrive jamais ou exceptionnellement en Ligue des Champions, ou Liverpool, peut y accéder par cette Europa League. On peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait plus de concurrence pour la remporter.
Gilles.
Oui, mais c'est le problème de cette Europa League, c'est que oui, effectivement, quand on voit les affiches, les clubs inscrits, c'est prestigieux, mais après il y a des impératifs, les championnats nationaux priment. Dans quelles conditions Tottenham ou Liverpool vont disputer cette compétition? Est-ce que la Lazio va être motivée? Les clubs des grands championnats souvent mettent en semaine leur équipe réserve ou leur équipe bis pour privilégier le championnat. Elle est quand même un tout petit peu bâtarde, cette compétition.
Sauf qu'il y a des championnats où il y a beaucoup de places permettant l'accès direct, notamment en Ligue des Champions. C'est pas le cas de la France. La France doit se contenter d'à peine 2 places, et peut-être aussi que cette Ligue Europa peut être une bonne chance de se montrer. Alors, on disait la répartition des équipes, et bien justement, vous parliez de Monaco. Monaco, c'est un peu comme Bordeaux et Saint-Etienne. Ils ont eu un tirage assez difficile. Monaco se retrouve notamment avec Anderlecht et Tottenham. Bordeaux se retrouve avec Liverpool et le Rubin Kazan. Saint-Etienne aura la Lazio et Dniepropetrovsk comme adversaires. Et écoutons Vadim Vassiliev, parce que je pense qu'il est dans le ton de ce que vous avez dit tout à l'heure, Gilles.
D'un côté, ça sera difficile. D'autre côté, je suis très content parce que tout le monde a dit l'Europa League, c'est pas le même niveau, mais c'est une belle compétition. On va jouer des équipes très intéressantes, très fortes, qu'ils ont déjà gagné de Coupe d'Europe. Donc rien n'est fait dans ce groupe, mais on y va pour sortir de ce groupe, pour aller à la phase de play-off. Là, évidemment, priorité le championnat quand même, mais on va jouer à fond. On a l'effectif pour faire ça, on a plusieurs joueurs, et on a l'effectif pour jouer toutes les compétitions à fond.
Alors complétons à Monaco, il y aura aussi l'équipe du Karabakh.
De Agdam, oui, en Azerbaïdjan.
En Azerbaïdjan, pour Marseille, il y aura une quatrième équipe, c'est Groningen, aux Pays-Bas. Et puis pour Bordeaux, c'est Sion, l'équipe de Suisse, et Fenerbahçe. C'est dans le
Rosenborg.
Rosenborg. Il faut comprendre quand même qu'à part Marseille, les autres équipes françaises étaient dans le chapeau 3. Donc il était assez logique qu'elle se retrouve face à des adversaires importants.
Alors Gilles, ils vont la jouer à fond cette compétition, alors qu'en même temps ils disent qu'ils vont jouer à fond le championnat, parce que il y a quelques jours d'ailleurs, en perdant en Ligue des Champions leur qualification, ils avaient dit pour nous maintenant l'objectif c'est la deuxième place du championnat de France.
La stratégie monégasque est totalement illisible. On bâtissait une équipe de stars, après on achète des jeunes pour mieux les revendre. Donc finalement c'est un
projet qui reste à peine un an.
Et qui reste à peine un an parce qu'on fait une plus-value monstrueuse. Donc c'est pas un projet sportif, comme je l'ai toujours dit, c'est uniquement une sorte de nouveau modèle économique qui, à mon avis, ne va pas perdurer, avec un financier qui restera pas et qui laissera le club dans un état de finances exsangue. Monaco me fait peur.
Rémi, est-ce que parmi ces équipes françaises, donc entre Monaco, Saint-Etienne, Marseille et Bordeaux, vous voyez qui allait le plus loin? Vous voyez une chose assez facile pour Marseille? Ce Marseille, on est encore en train de découvrir l'équipe, parce qu'elle aussi, elle a beaucoup changé.
Déjà, l'équipe de Marseille ne sait pas là où elle est en train d'aller. Elle est dans une sorte de tempête où on ne sait pas exactement ce que...
La tempête post-Bielsa est un peu finie quand même.
Donc maintenant, quant à Bordeaux, moi, je ne vois pas Bordeaux, parce que Bordeaux, tout le temps, on croit que ça va donner quelque chose, mais lorsqu'on voit ses prestations, ça n'a jamais été ça. Bon, maintenant, qui peut faire quelque chose, j'en doute, parce que même à regarder aujourd'hui Monaco se reposait uniquement sur une défense, et lorsque je vois que Monaco aujourd'hui a l'une des défenses les plus friables de la Ligue 1, je me dis, ce Monaco-là n'est plus un club de rêve. Donc, je ne peux pas rêver de voir une équipe française aller au-delà. Moi, je crois plutôt que ils vont se contenter. J'ai entendu ça avec Lille. Lille a passé le temps à nous le dire que oui, on va jouer à fond. Et quelques temps après, ils nous disent que non, attendez, on risque d'avoir des problèmes au niveau du championnat. Et finalement, c'était la même chose.
Oui, mais Rémy Ngono souvent cite des statistiques vieilles de 30 ans. Et là, il oublie que la saison dernière, Monaco avait complètement raté son début de saison. Et ça ne les a pas empêchés de terminer 3e de la Ligue 1 et d'aller en quart de finale de la Ligue des Champions. Le problème de Monaco, Gilles l'évoquait, c'est que c'est devenu un club de passage pour les agents qui contrôlent le club. Donc, ils font venir des joueurs. Et puis, leur objectif, c'est de les valoriser. Donc, il faut laisser à l'entraîneur, à ce bon Leonardo Jardim, le temps de remettre en place une équipe. Donc, c'est vrai que ce début de saison un peu délicat. Maintenant, Monaco va, avec les joueurs qu'ils ont, ils vont jouer. Or, l'objectif de Monaco, c'était de jouer la Ligue des Champions. Donc, je pense qu'en Europa League, ils ont le potentiel pour jouer. L'OM aussi. Voilà. En revanche, Saint-Etienne et Bordeaux, non.
Est-ce que c'est pas une chance pour l'OM justement de faire un peu oublier récentes semaines agitées?
Évidemment, avec la différence, c'est qu'ils ont une poule tellement facile qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. L'OM est dans l'obligation.
Dans l'obligation de se qualifier pour les 16e de finale.
On n'avait pas changé avec cet optimisme béat qui nous mène dans le mur. Oh là 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 là.
Dans l'obligation.
Une poule facile.
Braga, Slovan Liberec, Groningen.
Résultat de Marseille dans son histoire face au club portugais. 8 matchs, une seule victoire. Une seule victoire en 8 matchs. Les clubs portugais n'ont jamais réussi à Marseille.
C'était Porto et Benfica. C'était Porto et Benfica.
Ne soyez pas trop optimiste.
C'était Porto et Benfica. C'est pas pareil.
C'est une poule équilibrée.
Braga était finaliste en 2011 de cette Ligue Europa. Alejandro.
Il est vrai que Marseille a une tradition d'équipe de coupe, qui est assez performante dans ce genre d'exercice.
Ils sont encore en train de recruter, là, de peaufiner l'effectif, l'arrivée d'un joueur du Real Madrid.
Exactement. Et bon, Michel a mis à profit ses relations à
Espagnol.
Madrid, notamment pour récupérer Lucas Silva. Donc on sent que quand même c'est une équipe qui est en train de se mettre en place. Moi, je pense que Michel est un personnage tout à fait intéressant. Et ça me paraît effectivement une bonne occasion de valoriser cette équipe dans une compétition comme la Ligue Europa.
Gilles.
Attention, parce que le président Labrune a déjà dit qu'il était content du tirage, parce que Marseille joue le jeudi, donc, comme cette Ligue Europa, et les deux premiers matchs Le dimanche, Marseille jouera contre Lyon et contre le PSG. Et le président Labrune a dit, ça nous évitera de longs déplacements. Certes, mais je voudrais bien voir quelle équipe Marseille va mettre en Ligue Europa avant deux matchs cruciaux contre Lyon et le PSG en championnat.
Mmh. Messieurs, qui voyez-vous alors passer le premier...
Sortir des poules. Moi, je vois l'OM et Monaco.
Gilles.
Les quatre.
Ah, les quatre sortir des poules.
Bien sûr.
Ah bon. C'est ironique.
Quoi. Non, pas du tout. Ah bah non. J'ai mesuré Bordeaux, les paramètres.
Bordeaux ne la jouera pas. Rémi. Je sais très bien.
Peut-être Marseille.
Alejandro.
Oui, Marseille-Monaco et Saint-Étienne éventuellement, pas Bordeaux.
Bon alors du côté de la Ligue des Champions, eh bien le Paris Saint-Germain est tombé donc. Alors, il était tête de série, mais le voilà confronté bien au Real de Madrid qui ne l'était pas, qui est tombé dans son groupe notamment. Et justement, eh bien peut-être que les Merengues ils ont un souvenir un peu mauvais de cette équipe du PSG. Et écoutons pourquoi c'était un quart de finale et c'était en 1993. Souvenez-vous.
Quel suspense encore, parce qu'on redonne une balle de but au PSG là-dessus.
Avec un coup franc que va tirer Valdo. Wea est devant le but.
Campoiré aussi.
Campoiré aussi, il est monté tête.
Yes.
Gilles, vous vous en souvenez de ce but, vous y étiez peut-être
oui,
même au parc.
Oui, c'est un des plus beaux matchs, enfin une des plus belles émotions. C'était vraiment de l'émotion pure tout au long du match, une confrontation avec de l'enjeu et là la libération magnifique.
Ce but est survenu dans les arrêts de jeu et qualifie le Paris Saint-Germain.
À l'issue d'un match à retournement avec beaucoup de suspense, de grandes stars, et c'est vrai que Paris avait terrassé à l'époque l'ogre. Était le Real.
Mmh. Mais le Parisien, le PSG a retrouvé un peu cet effectif de haut vol.
Oui, mais pour le moment, on attend encore, alors on l'a eu parfois par bribes, contre Chelsea notamment, je trouve qu'il manque cette double confrontation dont le PSG va sortir vainqueur. Chelsea, certes, c'était bien, mais il manque de battre le Real ou Barcelone au moment décisif. Mais là, ce sera déjà un très bon étalonnage.
Alejandro, ils vont sortir de leur poule, les Parisiens, dans une poule où ils sont donc avec le Real Madrid, avec le Shakhtar Donetsk, l'équipe ukrainienne, et puis avec Malmö, qui est l'équipe où est né au football Zlatan Ibrahimovic.
C'est vrai que sur le papier, c'est pas du tout une formalité. Hein. Il n'y a pas que le Real, on a dit, Shakhtar Donetsk quand même est un adversaire coriace. Mais je pense que l'enjeu, aussi bien pour le PSG que pour le Real, n'est pas seulement de sortir de la poule, c'est de sortir premier. Car on sait quelle importance cela peut avoir en huitième de finale. Et donc toute la difficulté, ce sera de ne pas gérer, mais d'aller vraiment chercher, notamment cette équipe du Real Madrid, qui à mon avis est plus prenable qu'on ne le pense aujourd'hui.
Rémi, ils sont prenables, cette équipe du Real.
Je vais faire plaisir au réfet pour lui dire qu'ils sont quand même prenables et surtout, lorsqu'on essaie de regarder que le Real, depuis pratiquement août 2014...
C'est-à-dire depuis la victoire de la Décima, en gros.
C'est-à-dire que, donc, vous savez, le jour où ils ont été battus par la Real Sociedad, c'était en fin août 2014, ils ont pris 4-2. C'est là où on a vu des lacunes défensives du Real. Et là encore, vous vous souvenez qu'en mars, le Real a quand même pris 4-0 contre Schalke 04. Et là, il concédait 20 tirs, ce qui était extraordinaire. Pourquoi ? Parce que le Real est aujourd'hui défensivement déséquilibré. Donc, aujourd'hui, j'ai dit bien, même quand on voit la première journée du championnat, ce Real n'est pas encore prêt défensivement. C'est-à-dire qu'il y a des boulevards incroyables qui sont en train de se créer. C'est une équipe qui est à la recherche d'un équilibre que malheureusement, Benitez risque de ne pas trouver. Et de surcroît, je dis bien que ce Real risque d'avoir d'énormes problèmes avec, par exemple, un type comme Di Maria qui, maintenant, est du côté du PSG. Et lorsqu'on sait que l'année de la décima, c'est Di Maria qui a été le joueur le plus utilisé par le Real et qui avait marqué 9 buts et bien évidemment 18 passes décisives. Maintenant, il va jouer contre son ancien club et il va exploiter, bien évidemment, tous les boulevards qui sont du côté du Real. Donc, moi, je me dis, j'ai bien peur de ce Real. Là, s'il ne parvient pas à s'équilibrer défensivement. Mais par contre,
oui.
Je ne peux pas dire que...
Non, je vais couper la parole à Rémi Gonneau parce qu'il a peut-être oublié, il a cité les statistiques vieilles de deux saisons, il y en a eu une saison qui s'est écoulée depuis, puis il a peut-être oublié qu'il y a Danilo qui est arrivé en défense au Real Madrid et que Danilo, normalement, il devrait justement combler ce couloir droit.
Et bon, on va reprendre cette discussion juste après la pause dans le Café des Sports de Radio Foot. À tout de suite.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Retour dans le Café des Sports de Radio Foot International sur RFI avec Rémi Ngono, Xavier Barré, avec Alejandro Valente et Gilles Verdez. Nous en étions donc à cette Ligue des Champions. Je vous ai un peu coupé la parole, Xavier. On en était à ce Real Madrid que vous ne voyez peut-être pas si blessé que ça.
Non, moi je pense que ça va être un adversaire extrêmement redoutable pour le Paris Saint-Germain. Et
qui vous voyez premier dans ce groupe-là alors ?
Il faut rappeler que le statut de tête de série du PSG est dû à une modification du système des chapeaux de l'UEFA, qui a cette année décidé de mettre les 8 premiers, de classer les 8 premiers, les champions des 8 premières nations à l'indice UEFA. Donc le PSG se retrouve dans ce chapeau 1, il l'aurait été de toute manière, et le Real Madrid n'étant pas champion d'Espagne...
Pour ne pas répondre à votre question, Annie nous raconte l'histoire des chapeaux, hein. Voilà. Vous l'avez noté.
Et le Real se retrouvait dans le chapeau 2, donc ça donne une très belle confrontation. Moi je pense que le Real va être devant le PSG, parce qu'il est obligé d'être toujours plus compétitif dans un championnat extrêmement relevé, alors que le Paris Saint-Germain fait déjà cavalier seul en Ligue 1. Donc ça va être révélateur, et puis il faut rappeler une petite chose, c'est que il y avait déjà une confrontation PSG-Barça la saison dernière en phase de poule, que le PSG s'en était bien sorti, et ça l'avait pas empêché de se faire sortir par Barcelone dans la phase d'élimination directe.
Oui, enfin moi je serais moins optimiste que Xavier pour le Real, parce qu'il y a les problèmes défensifs qu'a rappelé Ngono. Il y a eu tout le feuilleton qui n'est pas terminé sur la succession des Casillas, qui a beaucoup perturbé la préparation du Real Madrid. Et puis il y a des problèmes offensifs, car le Real depuis le début de l'été a joué beaucoup de matchs sans marquer le moindre but, sans oublier le week-end dernier face au Sporting Gijón, qui est un club promu.
Mais ils reviennent de vacances, la BBC là.
Ils reviennent de vacances, mais quand même on retrouve. Je trouve un peu des polémiques qu'on avait entendues l'année dernière sur est-ce qu'il faut que Bale joue comme ci ou comme ça, est-ce qu'il faut que James vienne se joindre aux attaquants, etc. Donc on sent que beaucoup de leçons n'ont pas été tirées de ce qui s'est passé l'année dernière.
Il y a aussi Lyon dans cette compétition, l'OL qualifié d'office, deuxième du championnat de France, et qui donc renoue avec cette compétition après l'avoir disputée tant d'années. On se souvient des 7 titres de champion de France de l'Olympique lyonnais. Alors, ils avaient disputé justement, Rémi, une demi-finale en 2010, perdue face au Bayern Munich. Quelles sont les chances de Lyon dans un groupe là aussi assez relevé, on va dire quand même, mais peut-être moins dur que pour le PSG?
De toutes les façons, Michel Aulas disait déjà que hourra, il a gagné. Bon, mais de toutes les façons aussi, j'ai dit ce n'est plus le grand Lyon, parce que ce n'est plus le Lyon qui en 2006 te battait le Real par 3-0. Ce n'est plus exactement ce Lyon-là, parce que comme je le disais, j'ai vu Lyon évidemment se faire sortir par des moindres que ça.
Donc... Justement Rémi, alors ils seront avec le Zénith Saint-Pétersbourg, hein, on va le rappeler, avec Valence, alors ce Valence qu'on a vu, et ô combien guerrier face à Monaco, et puis la Gantoise de Belgique. Donc peut-être quand même qu'ils ont été un peu épargnés.
Ils ont été épargnés parce que le Zénith était quand même dans la même poule l'année dernière que Monaco, et Monaco avait fini tête de sa poule, et bien sûr qu'ils sont avec la Gantoise qui n'est pas aussi terrible que ça, mais je ne peux pas dire que c'est le super grand Lyon, parce que moi également j'ai vu des déficits au niveau du côté lyonnais, d'autant plus que ce n'est plus exactement le même Lacazette, même s'ils ont recruté Beauvue, mais néanmoins, Lyon aujourd'hui n'est plus le grand Lyon. Et comme le dit un proverbe africain, ah oui, un grand baba mort peut être incendié par un petit feu.
Gilles, une chose, c'est plus le grand Lyon d'il y a quelques années, mais ils ont plutôt bien recruté cet été, et ils ont peut-être cette culture aussi de la Ligue des Champions qui est pas si ancienne.
Puis c'est un tirage inespéré, vous releviez les noms des adversaires, ça aurait quand même été nettement plus terrible que ça. C'est un groupe homogène, mais Lyon, alors si Lacazette, parce que c'est ça le principal problème, et aussi Fekir règlent leurs états d'âme, tous les deux, s'ils se remettent à jouer, à ne plus penser à j'aurais
pu gagner
plus.
La petite musique de la Ligue des Champions peut peut-être y remédier.
Absolument, parce que ça vient dans quelques jours, et c'est le bon moment pour Lyon, à mon avis, pour retrouver cette jeunesse flamboyante, briller en Ligue des Champions. Dans ce groupe-là, je vois Lyon pouvant accrocher une deuxième place.
Xavier, vous
aussi ? Oui, c'est assez juste. Il y a pas mal de petites querelles d'ego dans le vestiaire lyonnais, et le fait de se montrer au plus haut niveau avec la perspective, pourquoi pas, de négocier un bon transfert dans un grand club européen après l'Euro 2016 devrait les amener à retrouver la raison. Maintenant, le calendrier de Lyon est quand même très compliqué, hein, parce qu'ils débutent à la Gantoise, ils doivent gagner déjà d'entrée là-bas en Belgique. Ensuite, ils reçoivent Valence, je crois, ce sera compliqué, double confrontation avec le Zénith. Ensuite, ils reçoivent la Gantoise et ils finissent à Valence. Et on sait qu'à Mestalla, c'est très très difficile. Donc, il faudra vraiment qu'ils gèrent au mieux toute cette phase de poule.
Alejandro, Lyon devancé par Valence dans ce groupe-là?
A priori, oui, ce serait la logique, mais je pense que Valence est une équipe parfois un peu fantasque, donc il y a même la possibilité d'aller les chercher.
Bon. Bah alors, on va évidemment suivre tout cela dans Radio Foot au quotidien, cette Ligue des Champions et la Ligue Europa et nos clubs français. Le prix UEFA dans la foulée du tirage au sort hier soir a été délivré et récompense donc chaque année le meilleur joueur d'Europe. Eh bien, hier soir, c'était sans surprise que Michel Platini a annoncé le nom du vainqueur.
Le meilleur joueur pour la saison 2014-2015 dans les championnats européens est Lionel Messi.
Lionel Messi, donc sans surprise, à nouveau récompensé. Le temps passe, la Pulga Blaugrana est toujours là. Mais justement, le président de l'UEFA, on s'en souvient quand il avait créé ce prix, il n'y a pas si longtemps, le premier a été décerné en 2011, eh bien, il l'avait fait dans l'idée d'éviter que finalement notre extraterrestre argentin en terre catalane ne truste tous les prix, puisqu'il en était à ce moment-là à son troisième ballon d'or. Est-ce que ce prix a encore une raison d'être selon vous, Gilles?
Aucune. Ce prix n'a aucun sens, parce que les meilleurs joueurs évoluent dans les championnats européens, donc on les retrouve dans le meilleur joueur FIFA, qui lui-même a fusionné avec le ballon d'or, tellement c'était aberrant. Donc tout ça doit se terminer, comme vous le suggériez, par un trophée unique, une seule récompense, le meilleur joueur du monde, qui joue en Europe aujourd'hui, sauf exception. Un jour, il y aura un joueur qui fera une saison sud-américaine extraordinaire.
Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire même du ballon d'or qu'on récompense quelqu'un qui joue à Santos ou qui joue au Tigre du Mexique.
Parce qu'à l'époque, ce n'était pas ouvert. Mais maintenant, c'est vrai que l'Europe est hégémonique. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Donc, ce prix UEFA n'a plus de sens.
Alejandro, même si c'est Messi.
Non, mais il faut se rappeler d'une chose. Quand ce prix a été créé par Michel Platini, à une époque où il a été furieux de voir que le Ballon d'Or était en train de perdre sa raison d'être en s'alliant à la FIFA. C'est-à-dire, Michel Platini estimait que la valeur du Ballon d'Or reposait sur le jury de ce Ballon d'Or, qui était composé des journalistes remarqués des différents pays.
Un par pays.
Et la fusion avec la FIFA était pour lui une aberration, car on mélangeait trois collèges différents et on a vu depuis qu'il n'avait pas tort.
Alors, mais quand même, Alejandro, quand même, dans le palmarès, eh bien, regardez, sur cinq années, trois fois sur cinq, ça a coïncidé avec le Ballon d'Or.
C'est logique.
Enfin, ça va coïncider,
sûrement. Gilles vient de le rappeler, mais c'est pas tellement le nom du vainqueur. De toute façon, aujourd'hui, on peut difficilement imaginer qu'un tel prix échappe à des Messi ou à des Cristiano Ronaldo. Mais ce qui importe, c'est la cohérence du prix. C'est que ce prix repose sur quelque chose d'intelligent et des cohérents. Et aujourd'hui, le Ballon d'Or a perdu cela, car ces mélanges de trois collèges, à mon avis, ne permet pas de l'assurer.
Oui, mais chef. Non, mais attendez, lorsque vous voulez dire que le Ballon d'Or a perdu, bien au contraire, c'est le prix de Michel Platini. D'ailleurs, j'étais même pas au courant qu'il avait pris. Attendez, si vous voyez cet événement important, ce n'est pas que le jour où il y a justement le tirage au sort de la Ligue des Champions, c'est là où on vient en catimini faire cette histoire-là et tout. La preuve, c'est que, bon, moi, je n'ai vu ça comme aucun titre phare d'un journal, de surcroît.
En Espagne, en Amérique du Sud, en Argentine.
Mais je peux quand même vous dire que Michel Platini, on dirait qu'il devrait être plutôt patron d'une usine de recyclage des temps lointains, parce que ce prix qu'il est en train de baptiser là, c'est quoi?
Le prix, en fait, il est en train de nous dire là, ça
ressemble à quoi? Ça ressemble, bien évidemment, aux joueurs européens, la première fois qu'il y avait le Ballon d'Or, soit quelque chose comme ça, c'était le prix européen, le footballeur européen, et c'était Mateus qui avait eu cela. Donc, à une certaine période, aujourd'hui, Michel Platini constatant quand même que même le FIFA World Player, qui a été créé en 91 n'a pas pu résister et a fusionné. Lui, il revient avec quelque chose de l'antiquité.
Non, mais vous savez,
il est venu avant. Mais c'est pas possible. Et de sur quoi j'ai vu, par exemple, l'année dernière, on a donné le prix, quelques temps, tout simplement, on avait donné le prix du meilleur joueur européen à Ribéry. Quelques temps après, on voyait qui? C'est Cristiano Ronaldo qui gagnait avec 29% de voix et Ribéry était troisième. Ça sert à quoi? C'est à rien du tout, c'est de la pacotille.
Mais tous les prix ne sont pas attribués systématiquement au même joueur, heureusement d'ailleurs. Maintenant, effectivement, il faut remettre les choses dans l'ordre. Le Ballon d'Or a été créé il y a plus de 50 ans. Il a acquis cette légitimité dans
notoriété,
la durée.
Notoriété, en plus.
Cette notoriété. Le FIFA World Player a plus de 20 ans. Il est arrivé en 2010. J'étais encore à France Football à cette époque, effectivement, que la FIFA décide de fusionner avec le Ballon d'Or et ne crée plus qu'un seul prix. Ça a été l'objet, d'ailleurs, de critiques à l'époque. Et Michel Platini, lui, comme le rappelait Alejandro Valente, lui n'acceptait pas cette fusion et donc a décidé de créer son prix.
Mais non, la question que je me pose aussi, Xavier, et je vous la pose, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir une fusion et à ce moment-là, on reviendrait en fait à l'ancien Ballon d'Or, mais avec le parrainage de la FIFA. C'est parce que ce prix UEFA a le même collège que celui de l'ancien Ballon d'Or, c'est-à-dire pas que des journalistes.
Le collège de l'ancien Ballon d'Or, il existe toujours. C'est le tiers des voix qui est représenté par les journalistes. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est les journalistes de 208 fédérations affiliées à la FIFA.
Est-ce que ça pourrait être fusionné ou pas?
Je pense pas. Je pense que d'une façon ou d'une autre.
Non. Et
peut-être que l'UEFA reviendra à la formule ancienne, qui était de désigner le meilleur défenseur, le meilleur attaquant, le meilleur joueur. Voilà, peut-être pour noyer un peu le poisson. Mais je pense qu'effectivement, le prix voulu par Platini à l'époque était aussi lié à la guerre qui se livre avec la terre.
J'entendais les principes du chef tout à l'heure. Chef qui est d'ailleurs un homme de principes et de convictions. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, que vous preniez tous les collèges du monde, n'importe quel prix, c'est Messi ou Cristiano Ronaldo ou Messi. Bon. C'est pour ça que ces prix peuvent se fondre l'un dans l'autre, ce sera toujours le même résultat.
Mais par contre, une élection de Platini à la présidence de la FIFA pourrait amener à évoluer éventuellement le Ballon d'Or dans le sens qui était plus traditionnel. Rappelons que Platini avait même proposé à France Football de s'associer à l'UEFA plutôt qu'à la FIFA.
Exactement.
À l'époque où France Football cherchait des partenaires.
Rappelons que Platini en gagnait 3 lui-même de ses Ballons d'Or. Et Rémi, juste pour conclure sur ce sujet, il y a un de nos auditeurs, Ben Loumou, qui a un proverbe pour vous et il me disait que ça lui ferait plaisir qu'on vous le lise. Alors c'est, si tu sors de la forêt en même temps que le buffle, sache monter à l'arbre. Et ça, c'est évidemment pour Cristiano Ronaldo, parce que il n'arrivera pas à battre.
De toutes les façons, Cristiano Ronaldo est le seul joueur au monde qui est nominé toujours dans les meilleurs rangs, si on totalise les points, depuis 2004. C'est la régularité. Donc, on peut me dire tout ce qu'on veut aujourd'hui. Et lorsque j'essaie, par exemple, de regarder que Cristiano Ronaldo, même si on me parle de meilleur joueur européen, c'est lui qui est le Pichichi, le goliador européen, avec 48 buts. Messi en a eu 42. Et par la suite, on me fait comprendre que Cristiano Ronaldo, qui a marqué en Ligue des Champions jusqu'en demi-finale, qu'on me dise aujourd'hui qu'il ne voit rien. Non, mais c'est pas possible.
Mais il se répète. Il a vraiment pris un coup de vieux, ne racontez pas
ce que je ne peux pas accepter. Donc Cristiano Ronaldo, c'est un somptueux joueur. Et on ne peut pas me dire qu'il ne peut pas se comparer à tel ou tel. C'est pas possible.
Il faudrait qu'il crée son prix, Rémi.
Ah oui, mais c'est comme ça.
Il le crée sur Rémi officiel, vous n'êtes pas au courant.
Toujours le même vainqueur, Ronaldo. Allez,
on passe à autre chose. Quelques minutes pour revenir un peu au terrain et au championnat du week-end et notamment sur les chocs qui se préparent. Sans doute dans le Stadio Olimpico de Rome, Xavier, on a l'AS Roma de Rudy Garcia qui reçoit la Juventus déjà deuxième journée. Une Juventus un peu animal blessé, là ils ont perdu beaucoup de joueurs, ils ont perdu à domicile le premier match. Est-ce que la Roma surtout va être l'éternel second de cette Juventus?
C'est l'occasion vraiment pour la Roma de taper fort d'entrée. Je crois que c'est que la quatrième fois dans l'histoire de la Serie A que les deux clubs vont se rencontrer si tôt dans le championnat, dès la deuxième journée. C'est jamais arrivé qu'ils se rencontrent à la première journée. Et donc là, c'est vraiment l'occasion pour l'équipe de Rudy Garcia, de montrer, voilà, paf, cette année, on a vraiment l'ambition d'y arriver. Parce il l'avait annoncé l'année dernière, voilà, ça s'était retourné contre lui. Donc là, il fait plutôt profil bas, mais avec des chances plus importantes, puisque la Roma a assez peu bougé. Son effectif s'est étoffé, mais avec beaucoup de joueurs prêtés. Mais ils ont quand même un effectif conséquent, alors que la Juventus a quand même perdu des joueurs très importants. Pirlo, Vidal, Tevez, quelques autres, on peut citer aussi Simone Pepe ou Ogbonna, Llorente également. Il y a des nouveaux qui sont arrivés. Il y a Cuadrado qui vient d'être prêté par Chelsea. Il y a Mandzukic, il y a Dybala, le Brésilien.
Il vient à peine d'arriver.
Il y a Khedira. Mais voilà, il faut créer une osmose. C'est vraiment le moment pour la Roma de battre la Juve.
Alejandro.
Oui, c'est assez logique. Et c'est d'ailleurs assez étonnant que les responsables de la Liga italienne aient programmé ce choc aussitôt dans la
saison. C'est un peu à l'image anglaise, Alejandro. Oui. La semaine dernière, on avait Chelsea qui allait à Manchester.
Pourquoi
City.
Vous savez pourquoi?
C'est
les programmateurs, les responsables des chaînes de télévision qui payent très cher les droits de retransmission, qui veulent maintenant des gros matchs d'entrée.
Jackpot.
Voilà, pour inciter les gens à s'abonner, parce qu'il y a deux périodes d'abonnement, il y a le début de saison et ensuite il y a la période de Noël.
C'est malheureux parce que ce sont deux équipes en rodage et donc on n'aura pas une vraie confrontation pouvant étalonner vraiment leur capacité à remporter ces championnats.
Rémi.
Les deux derniers matchs, les deux dernières confrontations ont quand même montré que l'AS Roma n'était pas très loin de la Juve. Parce que lorsque vous regardez quand même que le premier match était
3-2, vous vous souvenez avec
3-2 et c'est la seule équipe qui avait marqué deux buts à la Juve et de surcroît la Juve a gagné grâce à des pénaltys. Et quand on regarde aussi le match retour, la Roma a quand même beaucoup dominé et ils ont fait un but partout. Donc je me dis aujourd'hui si la Roma ne réussit pas à battre la Juve, alors là il faudrait bien que Rudy Garcia nous donne des explications.
Gilles, c'est l'heure de la Roma.
Oui, il y a quand même une grosse interrogation sur la Juve. Alors au moins aujourd'hui, parce que c'est une équipe qui se prépare pour les échéances futures, mais ils ont perdu des joueurs majeurs. Il y a une sorte de Pogba dépendance qui s'est installée. C'est un joueur jeune,
trop tôt,
on a l'impression qu'il a toutes les responsabilités.
Numéro 10 en plus.
Leader, charismatique, figure emblématique, sur le terrain, en dehors, c'est trop pour lui. Ils ont perdu Vidal, qui était un joueur absolument majeur, dont on a sous-estimé l'importance, je pense, parce que c'est pas un joueur qui est extrêmement populaire, qui a un comportement parfois limite, mais sur le terrain, il est très précieux. Donc là, il y a des interrogations sur la Juve et c'est le bon moment pour les affronter.
Et d'ailleurs, on aura noté que la Roma, eh bien, aura dans ses rangs Seydou Keïta, parce qu'il a refusé la convocation d'être convoqué avec l'équipe du Mali pour se consacrer justement à son club. Bon, et puis alors sur les pelouses françaises, on aura ça sera au stade Louis II, un Monaco PSG. Est-ce que c'est le choc du rocher selon vous, Xavier? Parce que finalement, c'est le premier du championnat de France contre le troisième, hein, un triple vainqueur, mais quand même, on a l'impression que ce Monaco n'est plus véritablement le troisième du championnat de l'année dernière.
Oui, en même temps, ils ont pas démérité contre Valence.
Il y a notamment Lévin Kurzawa qui a changé de côté.
Voilà, alors j'étais à la présentation au Parc des Princes là ce midi de Lévin Kurzawa, qui ne jouera pas d'ailleurs ce match-là parce qu'il est blessé.
Il ose pas.
Il y aura peut-être Di Maria, mais c'est peu probable parce que lui aussi il revient de blessure. Entre elles, Di Maria d'ailleurs qui fait la une de l'équipe Mag. J'en profite pour faire un petit peu pour mon magazine. Non, mais ça va être un match très intéressant parce que le Paris Saint-Germain, dans ce championnat, a qui comme adversaire à ce niveau? Il a Monaco, l'OM, par l'intensité du match, et Lyon. Voilà. Les autres, c'est que des faire-valoir. Donc, voilà, c'est le premier test intéressant sur les rares matchs qu'on va avoir d'intéressant pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1.
Ah, mais même quand on essaie de regarder la fin de la saison de Monaco, on voit quand même Paris avec 83 points, Monaco qui a 12 ou 13 points d'écart, mais c'est pas possible. Et ce Monaco-là qui est devenu une boutique d'import-export.
On va voir.
Donc, à une certaine période, il faut nous laisser cette histoire-là. Le meilleur buteur de Monaco, c'est aujourd'hui Martial qui a eu le courage de marquer 9 buts en une saison. Bravo! Et quand on regarde les footballeurs les mieux cotés de Monaco sur France Football, c'était qui? C'est Carrasco, meilleur aussi passeur aussi avec 7 passes décisives. Et regardez de l'autre côté, le Paris Saint-Germain. Et vous me dites que ça, c'est une grosse rencontre. Bon, il y a un proverbe africain qui dit que dans une mare, la grenouille se croit dans l'océan.
Quels sont les résultats, Rémi Ngono, qui est si féru de statistiques, des 4 derniers PSG Monaco en Ligue 1? Quels sont les résultats? Les quatre derniers, PSG, Monaco et Monaco
non,
PSG.
Non,
Alors,
je vais
match nul. Match nul.
Mais parce qu'il y avait
Parc des Princes comme à Louis II. Résultat nul des quatre dernières confrontations.
Il n'y a plus James Rodriguez, il n'y a plus
Mais Falcao n'était déjà pas l'année dernière. James Rodriguez non plus.
Pour vous départager, Gilles, vous faites le shérif aujourd'hui.
Je vais vous dire la vérité parce que ni l'un ni l'autre ne répond aux questions. Ils ont de vieilles tactiques, vous regardez, ils ne répondent pas aux questions quand ils sont en difficulté, ils nous noient sous des vieilles statistiques un peu pourri comme ça. Non, je vais vous dire la vérité. J'espère qu'il y aura un match. Paris va gagner, je pense, mais j'espère qu'il y aura un match. Parce que s'il n'y a pas de match sur ce sommet, c'en est un, ça voudra dire que le championnat est déjà plié au bout de 3-4 journées.
Donc, tu as dit que Paris va gagner,
c'est fini.
C'est bon, il n'y a même plus match.
Non, mais il faut qu'il y ait un match. Voilà, faut qu'il y ait un vrai match, que Monaco soit une opposition au PSG.
Mais vous pensez que ce Monaco-là qu'on a vu un peu défait face à Valence va offrir une opposition?
Je le souhaite pour l'intérêt du championnat, mais je ne le pense pas forcément. Mais il faudrait vraiment, parce que sinon le championnat est déjà plié, ça va être long.
Veux pieux comme moi également, je voudrais aller au paradis à pied.
Alejandro, pour conclure.
Ouais, j'aimerais y croire quand même qu'il y aura au moins du suspense, quoi, comme le dit Gilles.
Est-ce qu'on joue, Alejandro, le championnat de France avec un bracelet électronique, non pas au poignet, mais à la cheville? C'est un peu le dilemme d'un joueur là qui s'appelle Tongo Doumbia du TFC de Toulouse.
On dit que le football est le reflet de la société, donc on voit de plus en plus de personnes qui se promènent en ville avec un bracelet électronique, donc pourquoi pas dans le football?
Déjà qu'on n'a pas le droit à l'Alliance, alors là c'est compliqué. C'est ce joueur, en fait, Tongo Doumbia a été condamné à 8 mois de prison, c'était pour récidive de délit routier, hein. C'était pas pour meurtre ni rien, mais c'est vrai que c'était un peu, il conduit sa voiture sans permis et ça fait un mauvais exemple.
Malheureusement, pas le seul en France.
Ouais. Allez, la session attendue, celle des cartons.
Carton jaune.
Un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Rémi, à vous.
Un carton rouge, je n'aurais pas besoin de la participation des fan clubs de mon Facebook Remington officiel, mais je donne directement et courageusement un carton rouge au général de police, président de la Fédération malienne de football, Boubacar Diarra, parce que le football malien est traversé par une crise depuis plus de 9 mois. Le championnat qui est passé de 16 à 12 équipes avec des relégations arbitraires, des suspensions des dirigeants et des membres du comité exécutif, un déficit record de 500 millions de francs CFA. Résultat, conformément au statut, 54% des membres ont décidé d'organiser une assemblée générale extraordinaire. Et là encore, le général président Boubacar Diarra dit niet, il n'y aura pas ça. Et la justice malienne a été saisie. Et le verdict a été rendu ce matin à 9h. Eh bien, l'assemblée générale extraordinaire du football malien aura bien lieu ce 30 août à
14h.
Voilà, voilà. Et on va donc avec ordre du jour. Voici l'ordre du jour. La révocation du président directeur général Boubacar Diarra. Comme le dit donc un proverbe africain, le gros poisson mange des fourmis quand il est dans l'eau. Mais en période de sécheresse, ce sont les fourmis qui mangent le gros poisson.
Bon, Rémi, on va avoir des appels après la fédération malienne. Il va falloir expliquer que c'est Rémi Ngono et son carton rouge à lui.
Je suis responsable et je m'engage contre vent, marée, ras de marée.
Tout le monde vous écoute. Gilles, à vous.
Carton vert, un magnifique vert à Didier Deschamps. Bravo, bravo. Bravo pour avoir sélectionné pour les matchs amicaux de l'équipe de France Martial, le jeune attaquant monégasque. Un jeune attaquant plein de talent. C'est la fougue de la jeunesse, c'est l'avenir de l'équipe de France. Deschamps a osé, comme Aimé Jacquet avait osé en 1998, Thierry Henry. Voilà, la jeunesse est au pouvoir, c'est la relève. Les stars, peut-être un peu déclinantes, n'ont qu'à bien se tenir. C'est un avertissement lancé par Deschamps. Plus que jamais, je suis derrière lui. Avec Deschamps, nous pouvons gagner l'Euro.
Oh là là, de toute façon, c'est sa tâche, hein, il le sait. C'est l'objectif de sa saison à la tête de l'équipe de France. Xavier Barré.
Oui, je profite rapidement pour remercier ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire via les réseaux sociaux, notamment par Twitter, parce qu'ils ont été très nombreux, j'ai pas pu répondre à tous. Et puis, carton vert à Cheikh Ndoye, l'attaquant sénégalais d'Angers, qui réussit des débuts en Ligue 1 absolument fracassants. Il arrive de Créteil, et il a 29 ans, donc c'est pas franchement un joueur qui arrive, qui débarque tout tout simplement,
pas tout jeune.
Mm-hmm. Mais justement, il a su prendre son mal en patience, patienter, attendre. Il était à Créteil, il a marqué 32 buts avec Créteil au cours des 3 dernières saisons. Et là, il a fait le grand saut à Angers. Et Angers se retrouve 3e de la Ligue 1 avant cette 4e journée. Donc, chapeau à Schakendoy.
Ouais, le SCO promu et qui se retrouve déjà en haut de la Ligue 1. Alejandro.
Alors moi, je mettrais un carton rouge à la Confédération sud-américaine de football qui nous offre un vaudeville assez incroyable autour de la Copa América. Vous savez, la Copa América vient d'avoir lieu au Chili. La prochaine, normalement, c'est
l'Argentine
24 ans.
L'Argentine l'a perdu, hein.
Voilà, exactement. L'Argentine l'a perdu face au Chili.
Au final.
Mais, on a décidé de créer une nouvelle Copa América l'année prochaine pour fêter les centenaires de cette épreuve. Or, il était prévu de la disputer aux États-Unis. Problème, la justice américaine qui a épluché les comptes a trouvé qu'il y avait beaucoup de pots de vin qui avaient été versés autour de cette Copa América et les dirigeants sud-américains n'ont aucune envie d'aller
se promener aux États-Unis
à une épreuve aux États-Unis. Donc du coup, on maintient cette Copa América, mais on ne sait pas où elle va avoir lieu. Certainement pas aux États-Unis. Et voilà, et c'est assez incroyable. D'ailleurs, elle aura lieu pendant l'Euro, donc ça ne va pas être idéal pour sa promotion, mais bon, ce sont les dirigeants sud-américains qui ont ce genre d'idées.
Bon, ben, on la suivra pas, hein. Ça sera compliqué de suivre l'Euro et la Copa América. Radio Foot met un carton vert à Thomas Müller. Eh bien, Thomas Müller a accueilli mercredi à Munich, lui et son club, hein, le Bayern, l'un des Américains du train Thalys. Vous savez, c'est un de ces Marines qui ont désarmé le tueur monté vendredi dernier dans le TGV entre Bruxelles et Paris. Et à ce moment-là, eh bien, Alex Skarlatos, qui est un grand fan du Bayern, portait justement le maillot du Bayern. C'est précisément ce qu'avait remarqué Thomas Müller. Il avait fait un petit tweet en disant « Ce sont des héros. L'un d'eux portait mon maillot. Des gars extraordinaires. » Ils ont posé ensemble, ça a fait l'objet d'un tweet. Alors Alejandro, par contre, va falloir dire au Barça, hein, qu'il y avait un autre des Marines qui lui portait un autre maillot, c'était celui du Barça.
Oui. Par contre, personne ne portait les maillots du PSG.
Non, ça viendra peut-être. C'est la fin de ce Café des Sports. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission et d'être revenus autour de notre table. Un bonjour à un de nos auditeurs parisiens, à Michel Ouattara, qui nous suit toujours dans ce Café des Sports sur la FM à Paris. Merci aussi à David Fini, qui était derrière la vitre et qui m'a aidé à préparer l'émission. Il était avec Abdel Marzouk à la réalisation. Et on se dit à lundi. Bon week-end.